Bonjour, bonjour à tous. Mardi 26 février 2019, il est 9h. C'est donc l'heure des voix de service. Je suis Louis de Bernis et je suis en compagnie, comme tous les mardis, de Côme et de Yves-Olivier. Bonjour messieurs.
Bonjour, bon matin.
Comment allez-vous?
Ah, ça va super bien, belle journée ensoleillée, j'ai sorti les lunettes de soleil.
Réchauffé quand même.
Exactement.
Réchauffé quand même parce que ça souffle et il fait froid quand on est à l'ombre.
Oui, mais lorsqu'on souffre de chaleur humaine, ça va,
oui.
Ça se gère.
Tout est réglé dans ces cas-là, effectivement. Aucun problème, nous sommes donc trois bien là, bien en forme et réchauffés dans le studio. Et nous avons, comme d'habitude, plein de sujets à vous proposer. Où partons-nous aujourd'hui, Côme?
On va pas partir bien loin, pour une fois. Non, je vais vous parler un petit peu de serres zombies.
De serres zombies.
Voilà, exactement. De serres zombies, c'est une réalité. Hein. On n'est pas dans la science-fiction.
D'accord.
On va parler de Lucie aussi. Je sais pas si vous voyez à peu près qui c'est.
Oui, alors il va falloir remonter un petit peu en arrière.
Un petit peu, voilà, c'est ça. Et on va parler du kratom aussi.
Le kratom.
Voilà, exactement.
Ah, très
on
bien.
On a pas oublié une lettre.
Non, on va voir si ça se mange, si c'est autre chose. On va découvrir tout ça ensemble. De votre côté, Yves-Olivier, quel sujet allons-nous aborder?
Donc, en premier lieu, on va parler d'un moyen de transport auquel on ne pense pas toujours.
Le kratom?
Non. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas c'est quoi.
Ah, donc, d'accord.
Il y a peut-être un lien. Puis ensuite, on parlera d'un sujet qui nous touche, nous tous, mais surtout nos aînés, c'est-à-dire les trottoirs glacés.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Et enfin...
Pas que les aînés. Hein.
Oui,
moi, ça, mais eux plus que n'importe qui d'autre. Hein, parce que...
Ou moi.
Et enfin, du deuil, encore une fois. Donc la semaine passée, Côme nous avait parlé... Non, c'était Côme ou c'était toi, lui, qui nous avait parlé du cimetière pour les couples.
Cimetière.
Non, ça c'était le musée.
Le musée.
Le musée, oui. Ah oui, le musée. Oui, non, on ne les enterrait pas, ils sont encore
en vie.
Il y a eu des séparations, mais ils étaient encore en vie quand même.
J'ai pas pris de notes, je m'en excuse. Moi, je voulais vous parler du deuil animal.
D'accord, voilà, le deuil animal. Ça. Très bien. De mon côté, eh bien, des insolites, comme d'habitude, nous parlerons d'une olive, par exemple, une olive à 6 000 $. Oui, c'est possible. On parlera également distributeur automatique de cannabis. Ça arrive peut-être un jour au Canada, pas encore, en attendant, c'est dans un autre pays. Et puis une foule d'autres insolites, parce qu'on aura du temps, je le sais, je le sens. C'est parti pour les voies de service.
Et on commence joyeusement avec la maladie du cerf zombie.
D'accord, donc c'était vraiment l'animal, parce qu'en disant cerf zombie, est-ce que c'était des cerfs dans lesquels on fait... pousser des aliments pour les zombies. J'étais parti un peu loin, peut-être.
Non, c'est bien la maladie. Et cette maladie qui, au final, nous rappelle un peu la crise de la vache folle, qui est similaire, on va le voir. Certains diront que les films de science-fiction commencent ainsi. Un animal contracte pour une raison obscure un étrange virus et le transmet un jour à un quidam imprudent qui finit par contaminer tous les humains de la planète. Seuls quelques-uns survivront, au prix d'une errance et de lutte perpétuelle contre des créatures enragées, déterminées à s'en prendre au moindre organisme jusqu'ici préservé. Bon film, non?
Ça fait froid dans le dos, effectivement. Oui, le synopsis est lancé.
Depuis quelques jours, les médias du monde entier brodent sur la possibilité d'un tel scénario, du moins dans sa première partie. Qu'un tel scénario puisse devenir une réalité. Car depuis la fin du mois de janvier 2019, une virulente maladie, dite du cerf-zombie, frappe les populations de cervidés nord-américaines. Connue sous le nom plus scientifique de maladie débilitante chronique, ou MDC, elle aurait à ce jour affecté des animaux dans 24 États américains, principalement du Midwest, et dans 2 provinces canadiennes. Bien sûr, les cervidés infectés ne vont pas jusqu'à devenir d'affreuses créatures assoiffées de sang, mais ils n'en restent pas moins tristement aliénés. Difficulté à rester debout, apathie, salivation, perte de poids rapide... et agressivité envers les espèces d'ordinaire crainte sont autant de symptômes de la MDC. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun traitement ou vaccin connu. Les cerfs, élans ou wapitis contaminés sont alors condamnés à mourir, généralement quelques mois après avoir été infectés. Bien qu'identifiée en 1978, l'encéphalopathie des cervidés reste assez mal cernée. On sait qu'elle est causée par un prion, c'est-à-dire une protéine qui attaque le cerveau et les tissus de la colonne vertébrale, et qu'elle se transmet via les fluides corporels ou l'eau consommée par les bêtes. De fait, les animaux en captivité y seraient plus vulnérables. Plus déroutant encore, si la plupart des cervidés développent les fameux symptômes, d'autres meurent brutalement sans avoir manifesté le moindre signe avant-coureur. On sait également qu'elle présente de nombreuses similitudes avec une maladie bien plus étudiée, pardon, c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue sous le nom de maladie de la vache folle. Celle-là même qui terrorisa l'Europe à la fin des années 90, avec un total de 223 personnes qui succombèrent dans le monde après avoir mangé de la viande contaminée et développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sorte de dérivé humain de l'ESB. C'est essentiellement pour cette raison que les cerfs-zombies sont considérés par certains chercheurs comme une menace pour l'être humain. Michael Osterholm, directeur du Centre de recherche de politique sur les maladies infectieuses de l'Université du Minnesota, fait partie de ceux qui craignent que cette infection se propage trop ou tard à l'homme. Il est probable que des cas humains de maladies débilitantes chroniques associées à la consommation de viande contaminée soient relevés dans les années à venir, a-t-il déclaré début février face aux législateurs. Car comme l'a précisé devant le même auditoire Trevor Ames, professeur et doyen de l'école de médecine vétérinaire de l'Université du Minnesota, les prions responsables de la MDC ont été trouvés non seulement dans la salive, l'urine et les selles des cervidés infectés, mais aussi dans leurs organes et tissus musculaires. En somme, si la viande d'un cerf chassé venait à être consommée par un être humain, ce dernier pourrait s'exposer au risque de développer une maladie similaire. Le nombre de cas humains pourrait être important. Il ne serait pas des événements isolés, a poursuivi Michael Osterholm en s'appuyant sur les chiffres du rapport 2017 de l'Alliance for Public Wildlife. Devons-nous vraiment nous inquiéter ? Difficile à dire à l'heure actuelle. D'abord, rappelons qu'aucun être humain ne semble être tombé malade après avoir ingéré de la viande contaminée. Ensuite, rien ne prouve pour l'instant que les prions responsables de l'encéphalopathie chez le cerf ont le même effet spongifiant sur le cerveau humain. Et ce, même si Trevor Ames a fait la mention de résultats expérimentaux démontrant la possibilité d'une transmission à des primates. Dans un entretien accordé au magazine Health, le professeur Brian Appleby, directeur du Centre national de surveillance des maladies à prions, soulève toutefois une menace bien réelle, l'impossibilité à endiguer une épidémie qui touche des animaux sauvages. Avec des bovins, des moutons ou des chèvres, l'abattage permet de contenir la maladie. Les cervidés, eux, sont en liberté, et nous n'avons pas le luxe de pouvoir les neutraliser pour arrêter la propagation. Pour l'heure, le département de l'agriculture des États-Unis et l'OMS recommandent de ne pas consommer la viande d'un animal malade. Certains États américains ont ainsi ouvert des centres dans lesquels les chasseurs peuvent faire tester gratuitement leur gibier. Il leur est également recommandé de porter des gants lors de la manipulation des animaux morts et de ne pas les dépecer avec leurs ustensiles de cuisine ordinaires. Donc, avis aux carnivores, ça ne mange pas de pain.
Ah oui, mais effectivement, espérons que ça ne se propage pas. Nous, en tant que Français, avec le principe de précaution, on ne peut pas donner notre sang ici au Canada.
Effectivement.
Si on ne peut plus le donner ensuite en France, on va le donner où ? On va le donner où ?
Nulle part.
Nulle part. Un peu moins apocalyptique comme sujet, mais ça touche également le domaine de la santé publique, puisqu'il s'agit de cannabis. On le sait, il est autorisé, il est légal ici au Canada depuis peu, mais il y a d'autres pays où il l'est depuis plus longtemps, et donc ils sont un peu plus avancés dans l'évolution des produits et des techniques de vente, on va dire. Et je vous parle du distributeur automatique de cannabis qui fait son entrée en Grèce. Presque 2 ans après la législation en Grèce de la vente et de la culture du cannabis à des fins industrielles, une société grecque en a installé un distributeur automatique dans le centre d'Athènes, a-t-on appris vendredi passé auprès de son propriétaire. C'est une première en Grèce. D'ici la fin de la semaine prochaine, il sera opérationnel et toute personne intéressée pourra acheter des fleurs de cannabis, a affirmé Grigoris Morakos, un représentant d'Empoil, une société créée en 2016 et spécialisée dans la vente de cannabis industriel bio. Installé devant un magasin de la chaîne Empoil, justement, en collaboration avec la société italienne de production Terre di Cannabis, ce distributeur devrait fournir aux consommateurs des doses d'1 à 3 grammes de fleurs de cannabis, d'un coût de 10 à 15 euros par gramme, a précisé Grigoris Mokaros. Le distributeur de cannabis vise surtout la saison touristique qui va bientôt commencer, a-t-il souligné. La vente et la culture de cannabis à des fins industrielles sont légales depuis 2017 en Grèce, tandis qu'en mars 2018, une loi votée par le Parlement en a autorisé la production à des fins thérapeutiques. Même chose pour les produits pharmaceutiques dérivés. En novembre dernier, les autorités ont délivré les premiers permis de cultiver du cannabis à usage médical et ils ont été attribués à deux sociétés, Biomécan et Bioprocan, dont le siège se trouve respectivement à Larissa et Corinthe, tandis que des sociétés surtout canadiennes et israéliennes avaient exprimé leur intérêt. 12 autres projets représentant quelque 185 millions d'euros d'investissement sont en attente d'autorisation, selon les experts. La Grèce mise sur cette industrie qui pourrait créer de nouveaux emplois étant donné son climat et l'ensoleillement surtout considéré comme très favorable à la culture du cannabis. D'ailleurs, bien, la police découvre fréquemment des plantations illégales dans la campagne grecque.
Jamais l'air comme si tu t'ennuies. Ton téléphone éclaire ce que tu enfouis. À ton affaire en high def, tu t'enfuis. Smoke screen, joli, holy. J'ai des billets verts et j'attends ta mise en pli. Glow stick dans tes artères jusqu'à minuit. Tu danses en enfer, mon petit biscuit. Endormi, pretty. Sous la tête de ma mère, insoumis j'en suis fier. La folie est le père, la police légifère. J'ai renfermé, laissez faire, pas de charme, chant le larme. On se croirait dans un opéra, pédale pas le mal. Break syndical, regarde la caméra, j'écoute pas quand tu parles. Marley, j'ai lu Gandhi. La non-violence est au centre de ma vie. J'en fais jamais autant que ce que j'en dis. Et j'en ris. Sorry, Gandhi. Sans conséquence, c'est ce qu'on m'a appris. Je suis un intouchable façon dandy. À fleur de peau, les nerfs dans un grand bruit. Faut que la mort vive, galerie. VIP Cadillac. Boys club, body slash, one pack cigarette, Papa's any Percocet, good golly, Miss Molly, saw you and I kinda happy, sorry not sorry, the sauce got hurry, guilty got shot on the spot in the lobby, oh. Molly, sex animal, donne-moi ton argent sale, dis-moi parce que t'en penses, je suis
nouvel extrait de Medicayenne avec son album Radio Batata qui sort imminemment. C'est le premier extrait qui s'intitule Molly, comme on a peut-être deviné le titre de la pièce.
Peut-être, effectivement. Merci Jean-Sébastien. À votre tour, Yves-Olivier, de quoi nous parler ?
Merci, ben on va jaser. Jason de transport en commun.
Transport en commun, transport très en bien. Commun.
Êtes-vous des amateurs de transport en commun ?
Que oui, quotidien, hein. Oui,
bien
sûr.
Pas
quotidien,
vous prenez le vélo à moins 30. Hein.
Non. Non, non.
Il y en a, mais non.
Oui. Pas puis, votre transport en commun préféré, c'est lequel ?
Préféré ou par
on...
défaut ?
C'est ça, on oui, est un bah, peu... On est
allez-y,
un peu
bah, en fait, le défaut peut avoir un effet sur la préférence.
Sur la préférence, non, le bus, bus le peut-être bus, plus ouais. Que le métro.
Non, mais... moi, je me souviens qu'en arrivant à Montréal, j'étais quand même frappé par le fait que les bus fonctionnent quand même aussi bien malgré ces températures ah hivernales oui. Et toute cette neige. Bon, il est parfois un petit peu en retard, mais globalement, quand même, ils sont là régulièrement.
Donc, pas fan de métro. Hein,
mais il fait chaud dans le métro
oui,
quand même.
Il fait chaud, on voit rien. Puis, y a-t-il un transport en commun que vous ne retrouvez pas ici, mais que vous aimeriez bien voir ?
Le tram.
Oui, le tramway, c'est
ah oui,
sympa.
Les deux
ouais.
Mm-hmm. Bon, chers auditeurs, je vous promets, je ne les ai pas briefés avant, parce que justement, je vais parler de tramway.
Ah, c'est parti voilà.
Et en fait, c'est un journaliste, Olivier Lemieux, de Radio-Canada, qui a eu la bonne idée en fait, de nous présenter une ville, Grenoble, en France, mm-hmm. qui s'apparenterait un peu en termes de démographie, puis je pense aussi un peu de... saisonnalité à une ville
Montréal.
Comme Montréal.
Mm-hmm.
Et ça serait comme la preuve, en fait, un proof of concept, comme quoi un tramway pourrait venir s'installer ici. Et je suis comme vous, moi, un tramway, j'adore. Mais j'en ai rarement pris dans le quotidien. C'est plus en vacances ailleurs. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait.
C'est plus le côté exotique du tramway que je trouve intéressant.
Alors, partons à Grenoble où on fait 30 ans de tramway. En fait, tout ça commence en 1987. La ville de Grenoble, en France, célébrait l'inauguration de sa première ligne de tramway. Aujourd'hui, son réseau s'étend sur plus de 40 km et génère 240 000 déplacements quotidiens. Nous nous y sommes rendus pour comprendre les clés de son succès. Toutes les oppositions avant le tramway sont devenues des approbations après son installation, lance fièrement Michel Destau, maire de Grenoble de 1995 à 2014. Tout un mandat. Hein. C'est sous son administration que les réseaux municipaux de tramway a explosé, passant d'une à cinq lignes. La plus récente, inaugurée en 2015, s'étire vers la banlieue nord, pour ceux qui connaissent. Selon Michel Destot, le tramway a permis d'embellir la ville et de resserrer les liens entre les différents quartiers. Avec une population de 450 000 habitants, Grenoble se compare à Québec et ses 580 000 habitants. Donc autant pour moi, tantôt j'ai dit Montréal, mais ce serait plus Québec. La superficie des deux agglomérations est quasi identique, avec 540 km² pour Grenoble et 546 km² pour Québec. Là où Grenoble se distingue de la capitale nationale, c'est sur le plan de son centre-ville. Avec 8 800 habitants au kilomètre carré, il est presque deux fois plus dense que celui de Québec. Michel Destot y voit une bonne nouvelle pour l'administration Labeaume, quand viendra le temps de lancer le chantier du tramway à Québec. Vous avez un avantage de ce point-là parce que vous avez des artères plus larges, dit-il. Ce sera donc plus facile. La popularité du tramway saute aux yeux à Grenoble. Au-delà des rames bondées aux heures de pointe, les statistiques d'achalandage impressionnent. Chaque jour, environ 240 000 déplacements sont enregistrés dans les 81 stations, ce qui représente les deux tiers de toute la fréquentation du réseau de transport de l'agglomération grenobloise, qui comprend aussi 46 parcours d'autobus. En 10 ans d'ailleurs, le nombre de déplacements sur le réseau TAG a augmenté de 17,5% grâce notamment au tramway. En 2018, 87 millions de déplacements ont été enregistrés sur le réseau. En comparaison, durant la même période, la fréquentation du réseau de transport de la capitale, RTC, a augmenté de 9,7% et le nombre de déplacements plafonne autour de 32 millions annuellement. Derrière ce succès se cache aussi une grille tarifaire compétitive. Un passage unique à bord du tramway coûte 1,60€. Ça, c'est à peu près combien en dollars canadiens ?
Ça doit faire à peu près un 3 peu dollars. Moins de 3 dollars, un ouais. Petit peu moins de 3 dollars, je pense.
Soit environ... Ah, bah ça le disait, en fait, t'as 2,40 dans le texte. Voilà. À titre comparatif, il faut débourser 3,50 pour monter à bord d'un autobus du réseau de transport de la capitale, RTC. Le réseau TAG propose aussi un laissez-passer mensuel pour les 18-24 ans à 15€, donc 22,50 et souhaite offrir... 22,50 canadiens, pardon, et souhaite offrir la gratuité d'ici quelques années. La mobilité, c'est un droit. Il faut permettre à chacun, quel que soit son revenu, de pouvoir se déplacer. Tranche Yann Mongabourou, président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise. Grenoble a aussi adopté plusieurs mesures dissuasives pour limiter la circulation automobile au centre-ville et favoriser les transports collectifs. En 2016, la limite de vitesse a été abaissée à 30 km/h dans 80% des rues. Et dès l'année suivante, la tarification des parcomètres a été décuplée. Pour contrer le stationnement longue durée, après 2 heures, le tarif des parcomètres passe à 1 euro la minute. À titre d'exemple, ce stationnement 2h30 sur la rue à Grenoble coûte 35 euros. Ouais, mais comme les stationnements publics sont plus nombreux, la mesure suscite le mécontentement. L'Automobile Club de Grenoble accuse la mairie d'aller trop loin et de faire preuve de dogmatisme écologique. Ça me rappelle un arrondissement de Montréal, ça. On ne le nommera pas, hein. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, assure qu'il n'a pas déclaré la guerre à l'auto. La question n'est pas de chasser la voiture, mais de donner plus de place aux nouveaux moyens de déplacement, plaide-t-il. À Québec, l'adoption du projet de loi sur le statut de capitale nationale à l'hiver 2016 a conféré à l'administration municipale un nouveau pouvoir général de taxation. Le maire Labeaume n'a pas caché son intention de taxer un jour les stationnements de surface au centre-ville. La mesure aurait inévitablement pour effet d'augmenter le coût du stationnement pour les usagers, voire à inciter certains propriétaires à modifier la vocation des terrains pour lancer des projets immobiliers. Impossible par contre de savoir à quel moment cette nouvelle taxe sera instaurée. Difficile de passer sous silence les impacts du chantier du tramway, la ligne E, mise en service en 2015, traverse l'un des boulevards les plus fréquentés de Grenoble, l'avenue Jean Jaurès. Les travaux, qui ont duré 2 ans, ont complètement paralysé le quartier. De nombreux commerces sont fermés. La propriétaire de la brûlerie des Alpes, Patricia Chemin, n'hésite pas à parler d'un chantier infernal. Pour pallier la chute brutale de ses ventes au détail, elle s'est lancée dans la distribution de grains de café en gros. Le passage du tramway a combiné à l'aménagement de trottoirs élargis et d'une piste cyclable a forcé le retrait de 2 voies de circulation dans chaque direction. La moitié des places de stationnement de l'artère ont été supprimées. 4 ans après la fin du chantier, le quartier demeure fragilisé et plusieurs locaux commerciaux sont alloués. Des travaux de rénovation de façade et l'arrivée de nouvelles enseignes laissent cependant présager des jours meilleurs. Selon un fleuriste, l'avenue Jean Jaurès se transforme pour le mieux. C'est un quartier qui bouge, s'enthousiasme Tom Pario. Il y avait du monde avant quand c'était beaucoup de voitures. Il y a du monde aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de piétons et le tram. Malgré les irritants, personne à Grenoble ne semble remettre en question le tramway. Le plus récent projet de prolongement a été lancé sans la moindre opposition. 30 ans de tramway à Grenoble, quelle leçon pour Québec ? Et le premier de 3 reportages diffusés, en fait, c'était diffusé au téléjournal Québec les 18, 19 et 20 février 2019 sur l'implantation du tramway à Grenoble, donc une ville qui se compare à celle de Québec. Toronto aussi aurait le projet d'un fonctionnement d'un tramway, mais s'il est question de conditions hivernales, en fait,
mm-hmm. à vérifier. Et donc peut-être que nous n'aurons plus besoin de nous déplacer jusqu'à Lisbonne pour voir un tramway un jour et qu'à Québec, wow. ça suffira.
Et donc on va parler du kratom.
Qu'est-ce que c'est?
Devant nous prévenir les auditeurs mineurs.
Non, même pas.
Kratom. Ça sonne comme cratère, comme vous donnez parfois dans les fossiles. Ça peut être lié à ça.
Ça peut.
Mais ça c'est le prochain sujet.
Non, le kratom. Donc drogue ou médicament miracle.
Ah, d'accord, rien à voir, oui.
Voilà, effectivement.
Je vois le lien, moi. On n'élaborera pas dessus. Hein.
Alors, je vous rassure, ce n'est pas ici. Enfin, je vous rassure. Pourquoi être rassuré ? La poste de Pontianak peine à faire face à des montagnes de paquets destinées aux États-Unis. Cette petite ville indonésienne de l'île de Bornéo est devenue la capitale de l'exportation du kratom, un arbuste auquel sont prêtées de multiples vertus. Consommées en infusion ou en poudre, les feuilles de cet arbre endémique en Asie du Sud-Est sont un bon substitut aux opiacés, un remède à l'anxiété, voire une drogue récréative, assurent ses promoteurs. Mais les autorités sanitaires américaines s'inquiètent de voir la consommation de cette plante augmenter rapidement sur leur sol et estiment qu'elle est liée à plusieurs dizaines de morts aux États-Unis. La mode du kratom pourrait aussi aggraver la surconsommation de substances ayant des effets similaires à l'opium dans le pays, estime-t-elle. Voyant la demande décoller depuis le milieu des années 2000, les habitants de la région de Pontianak se sont, eux, convertis à cette culture, et l'Indonésie est devenue en quelques années le plus grand producteur de kratom au monde. 90% de nos paquets de la province de l'ouest du Kalimantan sont du kratom vendu aux États-Unis, confirme le chef du bureau de poste. Les États-Unis sont le premier marché du kratom, qui est aussi consommé au Canada et en Europe, où les saisies sont en hausse. L'Ouest de Kalimantan exporte quelques 400 tonnes de cette substance verte chaque mois, selon les données de 2016, soit des ventes totales de 130 millions de dollars par an, au prix actuel de 30 dollars le kilo. Selon l'association américaine du Kratom, qui représente les utilisateurs, environ 5 millions d'Américains consomment des extraits de ces feuilles, et ce chiffre continue à progresser. Pour satisfaire cette fièvre verte, les paysans de Kapuasulu, en Indonésie, délaissent les cultures de caoutchouc ou d'huile de palme, afin de planter cet arbuste devenu leur principale production. Quand un déficit de kratom sur le marché a fait bondir les prix jusqu'à 150 dollars le kilo en 2005 et 2006, des cultivateurs comme Gusti Prab se sont reconvertis dans le kratom. Il en exporte à présent 10 tonnes par mois. Le marché du kratom a été très bon au cours des 10 dernières années, se réjouit-il, et il a encore du potentiel. En Asie du Sud-Est et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les feuilles de cet arbuste, de la même famille que les caféiers, sont utilisées depuis des siècles pour leur effet antidouleur et légèrement stimulant. Mais c'est dans les années 2000 que les exportations ont décollé, dans la foulée du développement de la médecine alternative en Europe et aux États-Unis. Consommé sous forme d'infusion ou de capsule, le kratom est vendu dans des coffee shops ou sur Internet. La plupart des clients s'approvisionnent via des plateformes en ligne comme Facebook, Instagram ou sur la place de marché chinoise Alibaba. Si sa consommation est interdite en Indonésie, dont la législation sur les drogues est l'une des plus strictes au monde, sa culture y est en revanche autorisée, tout comme l'exportation de kratom non transformé, sous forme de poudre verte. A l'inverse, la Malaisie et la Thaïlande autorisent la culture de la plante sur leur sol, mais pas l'exportation. La popularité croissante du kratom inquiète les autorités sanitaires américaines, mais aussi l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui a détecté la substance dans 31 pays. Aux États-Unis, le kratom est légal dans 43 États. L'Agence américaine de la santé voudrait imposer plus de restrictions à son usage et a publié une alerte concernant son importation, ce qui signifie que les livraisons arrivant aux États-Unis peuvent être confisquées.
C'est impressionnant, oui, je ne connaissais pas, mais c'est déjà des gros volumes dont vous nous parlez là.
Effectivement.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser, l'être humain est incorrigible. Quand même. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux, un peu exotique, ça y est, ça transforme l'économie d'un pays à l'autre bout du monde et ça engendre...
C'est terrible.
C'est la fièvre capitaliste qui s'empare de nous encore et toujours. Eh bien, merci. Voilà, le kratom n'est pas... Ça se consomme, oui, effectivement. Peut-être y aura-t-il des distributeurs de kratom automatiques bientôt ici à Montréal. En attendant, prenons une petite pause. Voici, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission que j'aborde avec un sujet. Je vous parle d'une olive et une olive à 6000 dollars. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle une olive pourrait coûter ce prix-là ?
Elle est délicieuse.
Elle est délicieuse. Mmh. Olivier n'est pas du tout fan d'olive, apparemment.
Là, je m'excuse, je dis non, c'est pas possible. Ça, avec l'œuf, avec un million de likes, là.
Oui,
ça,
oui.
Là aussi, j'en peux plus, je suis exaspéré.
Je pourrais vous faire un suivi sur l'œuf parce que l'histoire n'est pas terminée, mais restons sur l'olive pour le moment. Non, eh bien, en fait, je joue avec les mots, je vous torture un peu. L'olive n'a pas coûté 6000 dollars à celui qui l'a consommée, mais à celui qui l'a servi au restaurateur, parce qu'il s'est passé la mésaventure suivante. Une olive non dénoyautée, dissimulée sous des feuilles de laitue, a causé une fracture à une molaire à un client du restaurant Mama Teresa de Chelsea, qui a été condamné à lui verser une indemnité de plus de 6000 dollars. Une salade italienne est en cause dans cette histoire, dans cette affaire, devrais-je dire, qui remonte à février 2016, hein, on est 3 ans après, qui s'est conclue par une décision rendue l'été dernier par le juge de la Cour du Québec, Gabriel de Pocomandi. Attablé avec quelques personnes, un client mange sa salade. Faisons une petite reconstitution des faits. Lorsqu'il croque soudainement sur quelque chose de dur et qu'une de ses dents casse avec fracas, lui causant une vive douleur. Il s'agit d'une molaire qui s'est fendue en deux jusque dans la gencive, lit-on dans le jugement. Ouais, un sacré bon coup de mâchoire quand même pour se fendre la molaire.
Faut y aller, hein. faut être agressif avec ça à son olive. Hein.
Être quelqu'un avec des convictions dans la vie, voilà, qui croque dans la salade. Un serveur et gérant qui se trouvent à proximité ont entendu le son de la dent qui se cassait. C'est une déflagration, là, c'est plus un son. Cet employé rapporte que les olives qui sont à l'intérieur de la salade italienne sont généralement dénoyautées, mais que les cuisiniers décorent le plat de petites olives à noyaux déposées sur le bord de l'assiette. Des sortes de fèves, en fait, si on veut.
Petit bonus.
Selon ce même employé, des plaintes ont déjà été formulées par des clients en raison d'olives à noyaux décoratives ayant roulé sous les feuilles de laitue. Le client se rendait le lendemain chez un dentiste qui constate l'éclatement de la molaire et propose un plan de traitement qui nécessitera 11 interventions. Le traitement lui coûtera, c'est au centime près, 4841,70 sous. Le client, qui est avocat, malheureusement pour le restaurateur, estime aussi avoir perdu 11 heures de travail. Le président du restaurant Mamma Teresa de Chelsea a pour sa part plaidé que la salade italienne est servie dans l'établissement depuis 1970 et qu'elle a toujours contenu des olives avec noyaux sans que cela ne génère de problème. C'est donc une institution, cette olive non dénoyautée. Il est d'avis que le demandeur aurait dû s'attendre à ce que dans une salade italienne, il y ait des olives, lit-on dans le jugement.
Ou bien qu'il y ait des noyaux dans l'olive.
Oui, plutôt. Or, tout le monde devrait savoir que les olives ont des noyaux, effectivement. Le contrat liant un restaurateur à ses clients l'oblige à servir un plat dont la qualité a été contrôlée et qui ne nuit pas à la santé, écrit le juge de Pocomandi. Cela comprend l'obligation de servir des aliments sains qui sont exempts de tout objet de denrées ou de substances pouvant causer des dommages, poursuit le magistrat. La décision précise qu'il revient au client de prendre des précautions nécessaires lorsqu'il commande un plat dans lequel se trouvent notamment des éléments solides tels que des os, des morceaux de cartilage ou des noyaux. Ils sont allés très loin, hein, ils ont vraiment fouillé. Par contre, si un accident survient dans une situation qui équivaut à un piège, le restaurateur peut être tenu responsable, ajoute le juge. Le juge a statué qu'en commandant une salade italienne, le client ne pouvait prévoir qu'il y aurait des objets ou aliments durs qui s'y trouveraient. Le tribunal estime donc que l'olive qui se trouvait enfouie sous la salade constituait un piège. Le client a ainsi obtenu un remboursement du coût du traitement de chez le dentiste, ainsi qu'une indemnité de 1 500 $ pour les douleurs, le stress, les inconvénients et la perte de revenus, portant le tout à 6 341,70 $ pour le restaurant du chemin de Old Chelsea.
Il faudra peut-être prévenir ce monsieur qu'il y a des os dans le poulet.
Oui, et puis voilà. Mais on rigole,
pour sa prochaine salade César.
Peut-être qu'on verra apparaître dans les menus des catégories de plats avec objets durs à l'intérieur. C'est... Oh là là. Autre sujet, autre danger de la vie quotidienne, c'est quand même un petit peu plus sérieux que les olives pour le coup, nous vous écoutons.
Il s'agit de nos trottoirs glacés.
Oui, il y en a plus que des olives avec des noyaux dans les plats.
Y a-t-il eu déjà chute cette année, messieurs?
Il y a eu chute.
J'en ai parlé à l'antenne il y a 3-4 semaines et en plus, je ne le savais pas en parlant à l'antenne, mais j'ai chuté, je me suis fait un petit peu mal. Bon, mais ça a cassé le Tupperware que j'avais dans mon sac à dos. Donc en arrivant à midi, j'avais mon dîner qui était un petit peu partout dans mon sac à dos. Voilà.
Moi, j'ai chuté deux fois au même endroit, donc ça va, je sais où je tombe. Exactement au même endroit.
C'est comme
même
les coins. C'est comme les coins à champignons, il y a les coins à chute.
Donc je sais où ne plus passer.
D'accord.
Donc ça va vous parler cet article, hein, je pense, hein, messieurs.
Nous sommes toutes oui.
Oui, alors en fait, c'est que nos aînés, eux, c'est encore plus grave pour eux, parce que quand il y a chute, ça peut avoir des plus grosses répercussions. En fait, Radio-Canada nous en parle dans un de leurs articles. L'hiver est souvent synonyme d'isolement pour les aînés et les personnes à mobilité réduite déjà en partant, donc avec la neige, avec le froid, etc., etc. Et c'est encore plus vrai cette année, alors que les municipalités peinent à déglacer leurs trottoirs tant les conditions météorologiques sont difficiles. Henri, 77 ans, est en convalescence à la suite d'une opération. Il sait qu'il doit faire de l'exercice physique pour bien se rétablir, mais les trottoirs sont trop dangereux pour qu'il puisse sortir. Bouger à l'extérieur, c'est plus difficile avec l'état des routes, avec notre hiver, dit-il. Je n'ai personne à blâmer, sauf la température. Henri se contente donc de parcourir les corridors de l'immeuble où il vit seul. Il fait aussi appel au service de popote roulante du centre d'entraide de Le Rameau d'Olivier afin de se procurer de la nourriture sans avoir à sortir. Henri est loin d'être seul dans cette situation. Les trottoirs glacés reviennent constamment dans les conversations que les bénévoles de la popote roulante ont avec les personnes âgées qu'ils visitent. Même moi, j'avais de la difficulté à monter les marches ou à marcher sur les trottoirs parce que c'était très dangereux, raconte une bénévole. Afin de briser l'isolement de ses aînés et de s'assurer qu'ils sont en sécurité, le Rameau d'Olivier fait des appels téléphoniques quotidiens à ses bénéficiaires. La personne est appelée chaque jour à peu près à la même heure, explique la coordinatrice du centre d'entraide, José Roy. Donc, si ça fait 2 jours de suite que la personne ne répond pas et qu'on n'a pas eu d'indication sur le fait qu'elle est hospitalisée ou partie en vacances, pour nous, il y a tout un processus qui s'enclenche pour rejoindre les proches et les policiers. De son côté, l'organisme Execo, qui défend les droits des personnes ayant une déficience motrice, a interpellé les élus à plusieurs reprises sur l'importance de déneiger les rues et les trottoirs de façon à ce que les débarcadères demeurent accessibles.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with
une formation fort prometteuse, les Britanniques The Beatles avec Lucy in the Sky with Diamonds.
Lucy in the Sky. Et la transition est toute trouvée avec Combe. Vous allez donc nous parler du ciel et des étoiles, c'est
exactement,
ça?
Exactement. Exactement. Ouais. Des diamants dans le ciel. Non, non, c'est magnifique. Ça m'évite effectivement une transition un peu loupée. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu notre question de la semaine. Est-ce que Lucy est vraiment notre ancêtre, comme on a souvent tendance à l'entendre? D'abord, qui est Lucy, avant tout? Lucy, c'est un petit squelette incomplet, découvert en 1974 dans l'est de l'Éthiopie, par une mission internationale que co-dirigeait le paléo-anthropologue et professeur au Collège de France, Yves Coppens. C'était dans un niveau géologique suffisamment ancien pour que ce soit très important, raconte-t-il dans un podcast enregistré en juillet 2018. Les découvertes précédentes étaient des découvertes isolées. On trouvait un bout d'os, un bout de mâchoire, une dent par-ci, un bout de bassin par-là. Et tout d'un coup, on a trouvé 52 ossements déterminés qui correspondaient à 52 os d'un même individu. À partir d'eux, les scientifiques ont pu reconstituer l'ensemble du squelette d'un petit personnage, selon l'expression de Coppens. Ce fossile a été daté à 3 180 000 ans, à quelques dizaines de milliers d'années près. Est-ce que cela en fait notre ancêtre ou pas ? Je ne le pense pas, répond Yves Coppens, parce que Lucy a 3 200 000 ans, et le premier homme a 3 millions d'années. Alors, on aurait tendance à penser que 200 000 ans à cette échelle-là, c'est pas grand-chose, mais il s'avère que si les caractéristiques peuvent quand même être assez différentes. Lucy est caractérisée par une tête qui contient un cerveau de moins de 500 cm3, alors que les quelques centaines de milliers d'années plus tard, l'homme apparaît avec un cerveau qui monte quand même jusqu'à près de 800 cm3. Même s'il y a toute une gamme de calibres, commente l'académicien des sciences, le cerveau de l'homme est beaucoup plus important et beaucoup plus irrigué. Le cerveau de l'homme est beaucoup plus plissé, et c'est une différence importante avec le cerveau de Lucy. L'étude de ce squelette a montré par ailleurs que c'était un être debout. C'est une bipédie qui n'était pas tout à fait la nôtre. Mais c'est normal, il y a 3 millions d'années, reprend Yves Coppens. Lucy avait à la fois l'aptitude de continuer à grimper aux arbres et celle de marcher. Or, les premiers humains, avec leur cerveau beaucoup plus gros, n'étaient que des êtres marcheurs. Ils ne grimpaient plus. Il n'y a que 200 000 ou 300 000 ans, peut-être, entre l'un et l'autre, ce qui me fait penser que Lucy n'est pas notre ancêtre. Même si l'évolution va parfois vite, c'est un peu rapide pour que des membres qui étaient aptes à grimper ne le soient plus, et qu'un cerveau de 400 ou 500 cm3 soit au double. Par ailleurs, les dents de Lucy ont l'air de se développer vers des dents plus fortes. L'homme, au contraire, qui se trouve dans un milieu plus sec, s'est mis à manger de la viande. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ses dents sont devenues plus graciles. Il mangeait des végétaux, comme Lucy, mais n'ayant pas assez de végétaux, il est devenu omnivore. Ce qui veut dire qu'il mangeait effectivement de tout, explique le paléo-anthropologue. Sa dentition a changé, elle est devenue beaucoup plus harmonieuse. Les dents latérales et les dents de devant se sont liées dans une courbe régulière, alors que Lucy a encore des dents de devant bien séparées des séries latérales. Les dents de Lucy ont tendance à se développer parce qu'elle ne mange que des végétaux, qui sont de plus en plus fibreux. Il faut des dents de plus en plus fortes pour être capable de broyer cette alimentation. Cerveau différent, dents différentes, locomotion différente. Je pense que Lucy fait partie de l'ensemble du vivier de nos ancêtres, mais qu'elle n'est pas notre grand-mère, sourit Yves Coppens.
Et la question qui reste donc, à laquelle il faut une réponse, est-ce que Lucy se serait cassé sa molaire en mâchant une olive non dénoyautée?
D'olive. Ça... Elle avait les dents très fortes apparemment,
d'accord.
Donc je ne pense pas.
Très bien. Et après Lucy, ce petit personnage des temps anciens, je vous ramène au présent aujourd'hui et je vous parle d'un grand personnage, un basketteur dont vous ne connaissez probablement pas encore le nom, mais dans les années qui viennent, vous allez en entendre parler. Nike, prononcé à la française, Nike, affecté par la blessure de la vedette du basketball NCAA, Zion Williamson. Oui, Williamson, pardon. Vous voyez, moi non plus, je ne sais pas bien le prononcer encore. Zion Williamson, joueur de l'université de Duke, est annoncé comme la future méga vedette de la Ligue professionnelle de basket nord-américaine, NBA, s'est blessé dans la nuit de mercredi à jeudi, 40 secondes seulement après le début de la rencontre, opposant son équipe à l'université de Caroline du Nord. et la blessure n'est pas banale, du moins sa cause. Sa chaussure a littéralement explosé sur un changement d'appui, provoquant une glissade du joueur qui s'est tordu le genou, selon les images de la chaîne de télévision ESPN qui diffusait la rencontre. Il est ensuite sorti du terrain en boitant et n'est plus revenu sur le parquet, envoyant une onde de choc dans le sport américain. D'autant plus que la rencontre entre Duke et l'Université de Caroline du Nord, où a joué Michael Jordan par exemple, est l'un des moments phares de la saison de basketball universitaire en raison de la rivalité légendaire entre les deux écoles. J'espère que le jeune homme va bien, a réagi la vedette planétaire du basket LeBron James, ambassadeur de Nike, à qui Zion Williamson est souvent comparé. Il a littéralement explosé sur sa chaussure, a ajouté King James sur Twitter. Zion Williamson semble être à la fois un jeune homme extraordinaire et un joueur de basketball exceptionnel. Je lui souhaite un prompt rétablissement, a pour sa part tweeté nul autre que M. Barack Obama, qui a assisté au match comme de nombreuses célébrités. Alors que les images de la blessure étaient rediffusées sur les chaînes de télévision et reprises sur les réseaux sociaux, les regards se sont tournés vers Nike, qui a un contrat d'exclusivité de 12 ans avec l'équipe de basketball de Duke. Même si ceci est un fait isolé, nous nous attelons pour comprendre ce qui s'est passé, a déclaré Nike dans un courriel à l'AFP. À Wall Street, l'action reculait de 1% en début d'après-midi après cette annonce. C'est quand même fou, les répercussions immédiates. Cet incident tombe au plus mal pour la marque à la virgule, qui est engagée dans une bataille avec notamment Adidas ou Under Armour pour s'attirer les futures grandes vedettes du sport. Zion Williamson, lui, est présenté par les experts de la presse américaine comme le visage futur de la NBA. À 18 ans, je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, autour de la table, mais lui, à 18 ans, eh bien, il affiche déjà 2,4 millions d'abonnés sur Instagram.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la chaussure? J'ai pas compris.
Eh ben, il a eu un appui très fort, et comme il n'est pas aussi petit que Lucie, eh ben, la chaussure n'a pas supporté le choc. Et vous savez, il y a ces coussins d'air, parfois, là, en dessous. Et bah voilà, ça a fait boom.
Très puissant hein, comme athlète. Hein. Ouais. Il est très très large et pourtant il saute comme.
Comme
une petite Lucie.
On a quelqu'un qui le connaît déjà, j'en suis sûr. Bon ben espérons qu'il se rétablisse bien vite alors.
Le soleil est là, le soleil déjà est de moi. Le soleil. soleil est là, le soleil déjà est pour moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras, dans mes bras. Le soleil est là, le soleil déjà est pour moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil est là, le soleil déjà est.
À l'époque, Catherine Ringer et Marc Lavoine chantaient « Qu'est-ce que t'es belle ?» On vient d'entendre Clara Luciani et Philippe Catherine réinterpréter ça à leur sauce et c'est devenu « Qu'est-ce que t'es beau ?»
Très bien, merci Jean-Sébastien. Dernier petit article de l'émission, Yves Olivier.
Oui.
Et vous hésitiez presque à le lire, mais si, nous sommes aussi parfois sérieux.
Il est un petit peu triste, mais on va essayer de le présenter de façon positive, hein, en ayant une petite pensée pour nos meilleurs amis disparus. Je parle ici de nos animaux de compagnie. C'est en fait Isabelle Lepage de l'agence France Presse et de la presse qui nous parle du deuil d'un animal jamais sans son chien. Depuis 16 ans, Ralf Hendrich dirige un cimetière un peu particulier, le seul en Allemagne à proposer à la fois enterrement et crémation pour animaux et soutien et réconfort pour les maîtres éplorés. Ici, on assiste souvent à des scènes très tristes, confie-t-il. Les gens pleurent beaucoup, raconte cet amoureux des chiens. Ils s'effondrent, ont parfois des pensées suicidaires. Ce cimetière de 10 000 mètres carrés est situé à Teltow, au sud de Berlin, dans un pays où l'engouement pour chiens et chats ne cesse de croître. Des boîtes de mouchoirs en papier sont disposées un peu partout, dans l'entrée du bâtiment principal, le crématorium ou la pièce du silence, au mur couvert des photos de tous les compagnons perdus. Qui le souhaite peut allumer une bougie, comme dans une chapelle, et se recueillir. Le travail d'accompagnement dans le deuil est immense, il faut rester à l'écoute et prendre les gens au sérieux, explique M. Hendrich. Si besoin est, le cimetière offre aussi une aide professionnelle. Nous avons une vétérinaire qui a une formation de psychologue et qui organise des discussions en petits comités, comme une thérapie de groupe. C'est en 2003 que Ralf Hendrich décide d'acquérir un vaste terrain pour créer ce cimetière, le ciel des animaux, après la mort de son Doberman, dont il avait laissé le corps chez le vétérinaire. Il apprendra plus tard qu'il a fini dans les broyeurs des services publics d'écarissage, avec tous les cadavres d'animaux d'élevage et des charognes trouvées sur le bord des chemins. « Nous avons pleuré des jours entiers », raconte-t-il. « Perdre un animal domestique peut causer une profonde tristesse, souvent sous-estimée », dit-il. « Pour nous, il s'agit non seulement d'un animal, mais d'un compagnon, d'un membre de la famille qui mérite d'être inhumé dans la dignité. » Sébastien Holland, 27 ans, vient deux à trois fois par semaine se recueillir devant la petite tombe de Hiro, son chat, qui a accompagné sa vie pendant près de 15 ans, avant de décéder un peu avant Noël. Subitement, il y a eu ce vide énorme, confie le jeune homme qui vit avec son père et un autre chat. Beaucoup de jeunes comme lui tiennent à une sépulture ou une crémation pour leur ancien compagnon à pattes, selon M. Hendrich. Carla Lemke, 63 ans, reste inconsolable. « Depuis 14 mois qu'il est mort, je viens ici tous les jours, deux fois par jour », raconte cette femme dont le pincher né défunt alien possède la... Le pincher nain défunt, alien, possède la tombe la plus décorée et colorée du cimetière. L'amour des Allemands pour les animaux domestiques, surtout chiens et chats, mais aussi hamsters, cochons d'Inde, perruches, tortues ou poissons, n'a cessé de croître depuis 2008, donc 45%, sans qu'une cause ait été clairement identifiée. Ils sont aujourd'hui 34,3 millions. Soit plus qu'en France, où le nombre est resté stable sur la période à peu près moins de 30 millions. Selon la dernière étude de la Fédération du commerce et recherche animale et celle des produits pour animaux domestiques, IVH, portant sur 2017. Près de la moitié des foyers allemands ont un animal, contre un tiers il y a 10 ans. Et si la majorité sont des familles avec enfants, le nombre chez les jeunes célibataires augmente aussi. Un animal domestique comme partenaire social, en particulier pour les célibataires, devient de plus en plus important dans notre société, affirme le président de l'IVH, George Mueller, dans l'étude. Et pas seulement pour les personnes âgées. Le nombre d'inhumations chaque année a explosé dans son cimetière d'environ 120 la première année, à plus de 4000 désormais, 3500 crémations et 500 enterrements. Au niveau national, en revanche, pas de chiffres précis indiquent à l'AFP Martin Struck, président de la Fédération des pompes funèbres animales. Les entreprises, quelques 120 cimetières et 26 crémations, préférant généralement rester discrètes sur leurs activités.
Voilà. Et oui, un vrai sujet, ça peut paraître un peu ridicule, un peu risible parfois, mais pour l'avoir vécu personnellement, c'est au moment où ces braves petites bêtes nous quittent qu'on se rend compte qu'il y avait une vraie interaction, une vraie présence dans un foyer.
Mais alors ces cimetières, c'est pour tous les animaux, c'est pas juste chien, chat ou
tout ce qui est domestique apparemment.
D'après moi,
j'ai
ça semblait pas avoir de restrictions.
Bon, et ben voilà, nous saluons aussi nos amis les animaux en ce jour, et ils sont importants quand même dans nos vies, et nous avons beaucoup à apprendre d'eux, je dirais aussi souvent nous humains. C'est ce qui conclut cette émission. Merci à vous, Com et Yves-Olivier, pour ces sujets comme toujours aussi intéressants. Merci également à Jean-Sébastien La Liberté pour la mise en onde, les choix musicaux, les transitions, il fait tout. Nous nous retrouvons bien dès la semaine prochaine ensemble. Bonne semaine à tous.
À bientôt.
À bientôt.